Il est 15h10 dans nos studios à Paris, l'heure du journal d'Haïti et des Amériques avec Michaël Ponge. Bonjour Michaël.
Bonjour Juliette, merci. Il est 9h10 à Fort Myers en Floride. La Floride qui s'est barricadée et attend maintenant le passage de Yann Ouragan de catégorie 4. Port-au-Prince à l'arrêt depuis lundi, la grève générale des transporteurs se poursuit. La population, elle, réclame toujours dans la rue la démission du Premier ministre. On ira découvrir aussi aujourd'hui au Canada les œuvres engagées de Stanley Février, le plus haïtien des Québécois. Et puis bientôt des cosmétiques peut-être made in Martinique, ça on en parlera avec vous Benoît Ferrand.
Et oui, la collectivité territoriale de Martinique a approuvé hier le lancement d'une filière locale de cosmétiques conçue, faut-il le dire, à partir de ressources locales.
Voilà, le journal de la première, c'est dans une quinzaine de minutes ensemble. Bienvenue à tous.
There will be a catastrophic flooding and life-threatening storm surge.
Des inondations catastrophiques et des marées potentiellement meurtrières. Tenez-vous prêts. La mise en garde est signée, on l'entend là, de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, l'état du sud-est des États-Unis duquel s'approche dangereusement Yann. Ouragan à présent de catégorie 4 avec ses vents à 220 km/h. Une dizaine de comtés a reçu ordre d'évacuation. Le pire est redouté et les habitants s'y sont préparés autant que possible. Reportage David Thompson.
Dans les jardins publics de Miami, la mairie a laissé des tas de sable en libre service. Les habitants viennent ici remplir des sacs pour se protéger des inondations qui risquent d'accompagner Yann. Torse nu avec sa pelle, Aaron, la trentaine, remplit frénétiquement ses sacs. L'ouragan majeur n'est pas encore arrivé, mais il pleut sans discontinuer depuis deux jours. Et déjà l'eau commence à monter devant sa maison située en bord de mer.
Mon allée commence à être inondée, donc j'essaie d'empêcher l'eau de rentrer dans mon garage.
À ses côtés, Freddy vient lui aussi remplir des sacs de sable. Mais pour sa grand-mère, elle commence à s'inquiéter, car la trajectoire de l'ouragan est encore incertain.
Quand je lui ai proposé mon aide hier, elle a dit non et aujourd'hui elle change d'avis. L'ouragan se déplace un peu vers l'est, donc ça va être pire que prévu ici.
Freddy est suffisamment âgé pour se souvenir de l'ouragan Andrew qui avait dévasté Miami en 1992. Alors il prend la menace à Yann très au sérieux.
L'ouragan Andrew avait tout simplement détruit le sud de Miami. C'était un ouragan de catégorie 5 et celui-ci est un catégorie 4. Donc on est juste un degré en dessous. Il va y avoir beaucoup d'eau, beaucoup d'inondations. J'espère juste que les toits ne vont pas s'envoler.
Et la consigne du gouverneur Ron DeSantis aux habitants est simple. Ne paniquez pas, mais préparez-vous au maximum. David Thompson, Miami RFI.
Yann attendu en Floride, donc après avoir fait deux morts hier à Cuba. Bonjour Marie Normand.
Bonjour.
L'île qui s'est réveillée après une nuit dans le noir total en raison d'une coupure générale d'électricité.
Oui, environ 24 heures sans électricité. Le système électronique national était totalement en panne, ne produisait plus d'électricité. Information donnée sur Cuba débattée par le directeur d'Union Electrica. Cet organisme gouvernemental reconnaît que réparer sera un processus complexe. Alors ce matin, l'électricité est partiellement revenue dans les régions les moins touchées par l'ouragan. Ce sera plus long, beaucoup plus long, et il n'y a d'ailleurs pas de calendrier pour le retour du courant dans l'ouest de l'île. Granma, le journal officiel du Parti communiste cubain, assure en une ce matin que toute la nation se tourne vers l'ouest comme un ouragan de bonne volonté. Dans la province la plus touchée, Pinar del Rio, où s'est rendu le président Díaz-Canel hier, les personnes jointes par 14 CI médias décrivent une zone de désastre total, des ravages sur les terres cultivées, notamment comme les plantations de tabac.
Au Canada, c'est un autre ouragan qui fait toujours la une.
Le National Post publie deux images satellites impressionnantes. Un avant-après Fiona, l'ouragan qui a érodé de larges pans du littoral de l'île du Prince-Édouard, une île profanée, c'est ce qu'écrit le journal ce matin, puisque cette île connaît une perte volumétrique de 40%. Les dunes de sable ont reculé de 7 à 10 mètres.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
C'était hier encore, en banlieue de la capitale haïtienne. Ce mot de révolution, vous l'entendez peut-être scandé par des milliers de personnes pour réclamer la démission du Premier ministre Ariel Henry. Depuis plus d'un mois et demi maintenant, de très nombreux Haïtiens ont investi les rues avec ce mot d'ordre et pour dénoncer l'insécurité et le coût de la vie. Mobilisation qui s'est intensifiée avec l'annonce de la hausse des prix des carburants mi-septembre par le gouvernement. Décision qui a également motivé l'appel à la grève générale lancée depuis lundi par le secteur des transporteurs paralysant Port-au-Prince. Marie-André Bellange.
Des rues désertes, pas de transport en commun, le commerce, les institutions privées et publiques gardent encore leurs portes fermées ce mercredi pour la troisième journée d'affilée. Quelques rares véhicules particuliers circulaient sur certains axes routiers. L'appel à la grève de 72 heures lancé par le syndicat des transporteurs a eu l'effet escompté à Port-au-Prince où les kidnappeurs ont repris du service depuis le week-end dernier. Plusieurs cas d'enlèvement ont été signalés ces derniers jours dans la capitale haïtienne. Parmi les victimes figurent trois employés du ministère de l'Éducation et un cadre de l'institution, le directeur général de l'Office national de partenariat en éducation, Hervé Boursico. Il a été kidnappé sur la route de Fréa, commune de Pétionville, en banlieue de Port-au-Prince. Alors que le pays est en grève, un ouvrier a été tué lundi sur son lieu de travail lors d'affrontements entre la police et des bandits issus de Simon Pelé, quartier situé au nord de la capitale haïtienne. La victime, un sourd, gardien d'une usine textile. Il a été atteint de plusieurs projectiles dans le dos avant de rendre l'âme peu après à l'hôpital où il avait été admis. Marie-André Bellange, Port-au-Prince, RFI.
La grève des transporteurs pour dénoncer, donc on le disait, l'augmentation des prix des produits pétroliers, alors que ceux-ci, Marie, sont toujours de plus en plus rares à la pompe. Depuis des mois, les gangs contrôlant toujours le principal terminal pétrolier du pays.
Oui, le terminal de Vareux, Michael. 70% des produits pétroliers du pays y sont stockés, rappelle le Nouvelliste, et il en est à sa 16e journée de fermeture aujourd'hui. Qui dit plus de carburant dit aussi pas de livraison de bouteilles d'eau dans les magasins. Le National raconte que les habitants du quartier de Fort National à Port-au-Prince sont obligés de marcher pendant plusieurs heures pour en trouver. Au Gonaïves, notre correspondant Ronel Paul explique aussi qu'un prisonnier est mort de soif à la prison civile hier. Ce manque de carburant entraîne d'énormes problèmes dans les hôpitaux. Plusieurs ont fermé, d'autres ont restreint leur service. Le gallon de diesel au marché noir a explosé, tout comme le prix de la course de moto, observe le Nouvelliste. Le tout à quelques jours de la rentrée des classes, c'est lundi. Et alors que le ministère de l'Éducation gère une crise après l'enlèvement de membres de son personnel.
Mais tout est globalement sous contrôle. Vous l'avez entendu hier dans notre rendez-vous. La déclaration du ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, était devant le Conseil de sécurité de l'ONU lundi.
Une déclaration qui a provoqué une vague d'indignation et de colère contre ce gouvernement qui vit dans sa bulle, juge le Nouvelliste. 5 associations patronales ont écrit d'ailleurs une lettre au Premier ministre Ariel Henry, publiée par exemple par Alter Press aujourd'hui. Elles se disent sidérées par ces propos irresponsables qui ne reflètent en aucun cas la réalité. Pour elles, le ministre a forcément été mal informé. Nous ne pouvons parler aujourd'hui d'une situation sous contrôle lorsque les activités demeurent paralysées, lorsque le pays est en grève, lorsqu'il est impossible de s'approvisionner en carburant, lorsque plusieurs hôpitaux ferment, lorsque kidnapping et viol sont des faits courants, lorsque les Haïtiens survivent dans la peur. Pour l'éditorialiste du Nouvelliste aujourd'hui, les Haïtiens vivent un état de siège médiéval. Le Premier ministre doit expliquer ce qu'il fait encore à la tête de l'État si tout est globalement sous contrôle alors que rien ne va pour les Haïtiens et les Haïtiennes.
Voilà donc pour la situation en Haïti. Enfin, Marie, c'était il y a un an en Équateur, le massacre de 125 prisonniers dans une prison. Un an après, la presse fait le bilan.
Il tient en quelques mots, Michael. Rien n'a été fait. Les leçons tirées de ce massacre restent sur le papier, titre Expresso en une, et le contrôle des prisons est toujours aux mains de la mafia. Nous devons d'ailleurs nous demander jusqu'où ces mafias ont pénétré les institutions pour qu'il ne se passe rien, commente un avocat pénaliste. Aujourd'hui, les délégués du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture doivent rencontrer les familles des prisonniers tués il y a un an. Depuis, d'autres tueries ont eu lieu. Au moins 282 prisonniers ont trouvé la mort dans ces prisons surpeuplées de l'Équateur.
Marie Normand pour la presse.
Radio Francia Internacional. Las voces del mundo.
Et comme chaque jour depuis le début de la semaine, direction le Brésil, à présent, à 4 jours des élections législatives et présidentielles de dimanche. Présidentielles aux airs de duel, on le répète, entre le sortant Jair Bolsonaro et l'ex-dirigeant de gauche, Lula, qui fait la course en tête dans les sondages. On est en ligne avec notre envoyé spécial. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Michael.
Arim, vous vous trouvez actuellement à Manaus, en Amazonie, région qui a voté pour Jair Bolsonaro il y a 4 ans. Aujourd'hui, a-t-il toujours le vent en poupe en Amazonie ?
Non, le vent a tourné un peu en sa défaveur. Dans l'état de l'Amazonie, Lula est globalement en tête dans les sondages, mais dans la ville de Manaus, cette mégapole de plus de 2 millions d'habitants, avec son pôle industriel, certes fragilisé, mais toujours important, Jair Bolsonaro reste très populaire. On le voit d'ailleurs, beaucoup de voitures circulent avec son affiche électorale collée sous la vitre arrière, et le drapeau national est accroché sur de nombreux balcons, signe d'une préférence politique en faveur du président d'extrême droite.
Ça peut étonner à Arim, car Manaus a été beaucoup touché et a énormément souffert du Covid.
Oui, et Jair Bolsonaro a été très critiqué pour ne pas avoir aidé les hôpitaux en manque de lits et d'oxygène. Et puis, il y a aussi les incendies qui font rage dans la forêt tropicale de Manaus. On peut d'ailleurs apercevoir la fumée. Donc, la destruction de l'Amazonie se poursuit. Elle s'est aggravée sous le président Jair Bolsonaro. Mais malgré tout, les électeurs de Manaus ne semblent pas vouloir le sanctionner.
Mais ce qui n'est pas le cas du reste du Brésil.
Oui, tout à fait. Lula est donné gagnant dans 14 des 27 États brésiliens, dont les deux États avec le plus grand collège électoral, São Paulo et le Minas Gerais, dans le centre-ouest du pays. Le Minas Gerais est intéressant car c'est l'un des swing states, l'un des États qui peuvent basculer au Brésil. Et selon les statistiques, en tout cas depuis 1950, celui ou celle qui remporte le Minas Gerais gagne aussi les élections. Jair Bolsonaro, lui, devrait percer dans 7 États, notamment dans le sud et dans certains États agricoles du nord. Dans les autres régions, les deux candidats sont au coude à coude.
À 4 jours du scrutin maintenant, Arim, quelles sont donc leurs stratégies à tous les deux ?
Lula, qui parcourt le pays sans relâche, veut absolument remporter l'élection dès le premier tour. Et vu les sondages, eh bien, c'est possible. Donc, l'ex-président appelle au vote utile, un appel dirigé vers les électeurs de Ciro Gomes, candidat de centre-gauche et actuellement en troisième position, mais loin, très loin derrière Jair Bolsonaro. Le président sortant, lui, fait tout pour être au second tour. Son discours est bien rodé, avec le retour de Lula, le voleur, comme il appelle en référence aux affaires de corruption du parti des travailleurs, le pays ressemblera bientôt au Venezuela. Alors ce Lula bashing a bien fonctionné il y a 4 ans, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. D'ailleurs, un Brésilien sur deux désapprouve Jair Bolsonaro. Avec une telle impopularité, il est quasi impossible de gagner une élection.
Arim Lipold, envoyé spécial de RFI au Brésil, en ligne avec nous de Manaus. On vous retrouvera bien évidemment dans les prochains jours avant ce scrutin.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Il est installé au Québec depuis plus de 30 ans, mais c'est en Haïti qu'il est né. À Port-au-Prince, l'artiste Stanley Février expose ses œuvres en ce moment au Musée des Beaux-Arts du Québec, photos, sculptures et autres installations pour dénoncer le racisme et la violence. Ça s'appelle « Les vies possibles », exposition que Pascal Guéricola a visité en compagnie de Stanley Février.
Là, je suis pris dans un drame, là. Je pleure. Après, j'ai dit « Oh, c'est ça que je vais travailler ».
Le drame dont parle Stanley Février, c'est celui d'un massacre dans une école aux États-Unis qu'il découvre dans un journal. Secoué par cette violence, il se tourne vers le mur blanc de son atelier, sa thérapie.
Ces projets-là, ça a pris 3 ans. Ça veut dire que j'ai été chercher c'est quoi les causes qui poussent un humain à commettre de telles actions.
Au musée, le public découvre un petit bureau d'écolier. Il fait face à une installation de 45 revolvers en plâtre pour se souvenir du premier massacre de masse dans une école du Michigan aux États-Unis en 1927. À quelques pas, en hauteur, l'enveloppe en silicone d'un homme aux bras menottés dans le dos rappelle, elle, le meurtre de George Floyd par un policier américain. Sous les mains de l'artiste, cette victime prend un nouveau visage, comme le raconte Bernard Lamarche, conservateur de l'art actuel.
Et cette sculpture-là, Stanley a beaucoup insisté pour que ça soit en élévation, pour que tout le poids qu'on sait que tu es posé sur le corps de George Floyd soit renversé.
L'indignation de l'artiste face aux injustices s'incarne aussi dans les grands tirages photographiques qui montrent sa silhouette dans une cabane aux airs de bidonville. Des images qui ont bouleversé cette visiteuse.
Puis je me suis dit, mon Dieu, ça, je l'ai déjà vu quelque part. C'est le Mexique, quoi. Ces endroits-là, délabrés, où il y a des gens qui habitent pour de vrai. Il y a des gens qui vivent comme ça, à tous les jours.
Devant le public qui visite l'exposition Les Vies Possibles, Stanley Février témoigne de son engagement d'artiste.
Une des œuvres importantes que j'ai faites, qui n'a jamais été montrée ni exposée, c'est de partir pendant la période des migrants, là, la Syrie. Mais moi, je suis parti en Europe sans papier, vivre avec des migrants. J'ai été sur place jusqu'à l'épuisement. Pas de papier, sac à dos, marcher avec tout le monde, dormir. Ces sculptures-là, je les ai vécues, là. C'est pas juste une sculpture, il y a tout moi là-dedans.
Le Musée des Beaux-Arts du Québec a acquis plusieurs des œuvres de cet artiste de plus en plus apprécié, le conservateur Bernard Lamarche.
Il ne faut pas s'en cacher, les collections d'un musée comme le nôtre sont bâties sur une culture essentiellement beaux-arts, donc européenne, qui a tendance à, moins aujourd'hui, mais néanmoins, mettre de côté les artistes afrodescendants, les artistes autochtones, les artistes queer. Et donc, là, il y a un éveil en ce moment. Donc, collectionner cette année février en ce moment, c'est être en phase avec cet éveil-là, d'une part, mais aussi, c'est nourrir notre collection.
Je ne défends pas une identité noire. Ce que je défends, c'est une identité humaine. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain dans son ensemble.
Né à Port-au-Prince, mais éduqué au Québec, Stanley Février a renoué ces dernières années avec son héritage insulaire.
Je suis ici à 100%, là. C'est quelque chose qui dormait en moi, que j'ai pris conscience via des lectures, de la recherche, de la musique, d'écouter du compas, voir les gens danser, de comprendre un peu comment ça se vit, tu sais, et de mieux comprendre mes actions. Donc, avoir une double culture, c'est une immense richesse. C'est absolu.
Finaliste pour un prix récompensant l'artiste canadien en art actuel de l'année, Stanley Février participe à une exposition collective au Musée des Beaux-Arts du Canada à partir du 28 octobre. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Et l'exposition Les Vies Possibles, elle est à voir jusqu'au 16 octobre au Musée des Beaux-Arts du Québec.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
Et j'ai évidemment perdu ma feuille, mais si je ne m'abuse, on parle de la Martinique et des cosmétiques peut-être bientôt créés sur place par la collectivité.
Absolument. La collectivité territoriale de Martinique, la CTM, a approuvé hier la signature d'une convention avec une association regroupant 560 entreprises de cosmétiques. Une antenne locale va être créée en Martinique avec un objectif : élaborer des produits conçus, faut-il le préciser, à partir de ressources locales. Un reportage Anne-Laure Dufeal.
À travers ce projet, la collectivité territoriale de Martinique veut mettre en valeur la biodiversité de notre île. Alexandre Ventadour, président de la commission exécutive Attractivité, Développement économique et numérique de la CTM.
Quand on fait de la recherche fondamentale sur la biodiversité, l'une des expressions les plus faciles et immédiates, c'est la cosmétique. Et donc, moi en tout cas, j'appelle de mes voeux à ce qu'on ait une filière très très forte en Martinique.
Au niveau de l'emploi, ce projet n'a pas pour vocation d'inverser la courbe du chômage, mais la CTM espère tout de même proposer un nouveau type d'emploi qui permettrait de diminuer la fuite des cerveaux en Martinique.
C'est pas là où il y aura l'emploi massif, mais l'emploi qualifié, voire très qualifié. Oui, c'est la recherche, mais c'est également tout l'aspect autour, le marketing, le packaging, la communication. Avec cela, c'est une des thématiques, un des secteurs où on pourrait soit faire revenir des Martiniquais qui ont acquis ce talent-là par ailleurs, soit faire rester des Martiniquais.
Ce projet avec Cosmétique Valais est donc un projet ambitieux. À terme, la CTM veut créer un secteur cosmétique en Martinique qui sera reconnu à l'international. Reste à savoir si ce projet marchera.
Parlons d'un colloque maintenant. C'était lundi après-midi au Sénat. Colloque consacré à la crise du logement social en Outre-mer. Le but de ce colloque, avec des élus ultramarins bien sûr, la mise en place d'un meilleur dialogue entre les territoires et l'État. Écoutez le sénateur guyanais Georges Patient au micro de Tidiane Amaron.
peut considérer qu'actuellement, c'est encore un sujet très centralisé dans lequel les collectivités n'ont pas voix au chapitre. Ce qui peut expliquer justement, c'est cet échec que l'on a actuellement. Les financements existent, mais la concertation n'existant pas, la question des normes aussi de construction chez nous, puisque les collectivités ne sont pas associées, mais on arrive à ce résultat où l'objectif à atteindre était de 150 000 logements, alors qu'on réussit à peine à en construire 10 000 chaque année. Et il y a quand même des avancées. La Cour des comptes, les ministres, en octobre 2021, eux aussi ont reconnu qu'il fallait plus aller dans une co-construction, qu'il fallait de plus en plus associer les collectivités d'outre-mer.
Bon après-midi, Michael. À demain.
Et à demain, Benoît Ferrand. Merci à Claude Baptista qui était à la réalisation.